Elle arrive. Définition de la voix. Son, ensemble de sons produits par la bouche et résultant de la vibration de la glotte sous la pression de l'air expiré. Faculté d'émettre ces sons.
Nous savons aujourd'hui que la voix humaine, qu'elle soit chantée ou parlée, que la hauteur en soit voulue et contrôlée par l'oreille ou non, est conditionnée, elle aussi, par l'arrivée des salves d'influx récurrentiels sur le larynx.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla
grosse voix.
Criez.
Voix grasse.
Mou de la voix.
Voix chaude.
Vocal fry.
Voix blanche.
Tu parles.
Aiguë, grave, agréable, hilaire, de voix rassurant.
Chut, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Chut, chut, chut.
Silence.
V-O-I-X.
La voix.
I get the feeling that when I'm talking in English, I'm talking with a voice that comes from the throat, maybe. Et quand je parle en français, peut-être que ma voix résonne plus dans ma tête, elle est plus haute. Mais ma voix radio en français, elle est plus comme ça. Et je ne parle pas comme ça dans la vie réelle. Je ne dis pas « salut ». Mais quand je présente 6 heures avant minuit, je dis « il est 6 heures avant minuit, vous écoutez Syllab ». Alors que là, je vais te le dire « il est 6 heures avant minuit, vous écoutez Syllab », en vrai. Parce qu'on m'a appris à faire comme ça, aussi. Peut-être que je ne serais pas obligée de le faire, mais je suis matrixée.
Et c'est sur les notes de cet auteur yougoslave que nous allons enchaîner avec une émission concoctée pour Syllab sur la voix.
Et aussi... Moi, ça allait, tu vois, j'ai un peu vite capté le truc, mais j'avais des copines de promo qui avaient ce qu'on appelle cette voix verte. Ouais, je sais pas si j'arriverai à le faire, mais c'est vraiment une voix très enfantine. Et ça, c'était vraiment mal vu. Et même, il y en a, parce qu'on avait des profs intervenants qui étaient des journalistes et qui venaient et qui pouvaient dire des trucs genre « mais en fait, faut que t'arrêtes de parler comme ça, quoi. » Aucune crédibilité, vraiment... Vraiment, là, t'as aucun avenir dans la radio si tu continues à parler comme ça, quoi.
Allô ? Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ?
Glottophobie.
La glottophobie, ça commençait quand j'étais en école de journalisme à plus faire. C'était vraiment, au contraire, on veut une diversité d'accents dans nos radios et c'est valorisé.
Moi, j'ai découvert un mot récemment, la glottophobie. La peur des accents.
Ah ouais?
Ça a été inventé par Philippe Blanchet qui était à Rennes 2.
Ah ouais?
Ouais.
Ok. Genre, c'est peur des accents.
Des accents, quand peu importe, même en France, les accents en France ou les accents des autres personnes.
Genre des jugements négatifs ou quoi sur certains accents. Mmh. Par exemple, les personnes qui ont un accent du sud, genre Marseille, sud-est et tout ça. Ouais. Tous les préjugés qu'ils vont subir, des gens qui les décrédibilisent d'avance parce qu'ils ont cet accent. Okay.
Par exemple, vous dites « on travaille ».
Non, 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 « on travaille ».
Non, mais là, il ne vous comprend pas.
Moi, je veux, comment ça? C'est moi le patron, c'est moi le boss, voilà.
Ça un truc de classe et de société. Je me souviens aussi de cette anecdote des Parisiens qui écoutent leur voix et qui disent... Ah, mais je savais pas que j'avais un accent parisien. Parce qu'il y avait pas mal d'accents dans les... Et c'est la première fois qu'ils entendent leur voix et qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient un accent.
Ça c'est du rap de Titi parisien. Et niveau texte, on est les baisses en fausse modestie. Regarde-moi bien dans les yeux quand je te serre la main avant que mon chasse ne se mette en mode escrime. Ça c'est du rap de Titi parisien à l'écriture.
Donc, du coup, je suis pas française et j'ai appris le français du coup en Tunisie. Que moi je cache parfois mon accent. Je sais que parfois j'ai pas envie de montrer mon accent, mais quand je suis à l'aise avec des gens, je m'en fous. Voilà. Et quand j'ai envie de pas montrer mon accent, je le montre pas. Je sais pas, j'ai l'habitude là maintenant, quand j'ai pas envie de le. Et quand je suis fatiguée, je m'en fous.
Stress.
Modification.
Je veux pas entendre ma voix en public.
Il imitait cette femme, lui a dit je comprends rien de ce que vous disiez, c'est pas du français, ça c'est du chinois.
Ah ouais.
Yes. Glottophobie.
Sociolinguistique. Écoutez.
Langue des signes.
Culturel.
Humain.
Humain.
Un Français sur deux estime parler avec un accent. Donc vous détestez la moitié de la population française ?
Oui, les accents, ils existent et ils ont toujours existé. Hein. Ça, on le nie pas. C'est pas pour autant qu'il faut leur donner une plateforme. Si on commence à faire ça, en fait, on risque de
perdre la pureté de la langue française.
L'historicité de la langue française. Et de finir avec un globi-bouga qui ne fait plus de sens pour personne.
Glottophobie.
Mais donc, du coup, personne n'a sa personnalité, finalement. On est tous lycées, on a tous la même personnalité, quoi.
Moi, je pense que vous êtes jalouse, parce qu'avoir un accent, ça signifie avoir un héritage linguistique qui est plus riche que le vôtre. Nos ancêtres, qui parlaient des langues régionales, et ils et elles se sont fait violenter pour parler français et oublier leur langue. Et en fait, leur accent, c'est ce qui nous reste de leur mémoire. Donc, quand on parle avec un accent, en fait, on fait un devoir de mémoire. Vous êtes contre le devoir de mémoire ?
C'est pas des questions de discrimination, mais de communication. Comment vous voulez qu'on arrive à se comprendre si on peut pas entendre l'autre à cause de... Enfin non, moi désolé, j'entends un accent, je bloque dessus, j'arrive pas à dépasser ça, mon cerveau ne réfléchit pas, je comprends pas ce
que c'est. Je pense que vous êtes à la diversité linguistique ce que les mascus sont au féminisme. Je pense que vous êtes à la diversité linguistique ce que les mascus sont au féminisme.
Avril 1978, un week-end à la campagne, de Catherine Benhamou.
Et la réponse, elle se faisait pas attendre.
C'est pas notre faute si elles osaient pas parler, quand le micro est libre, il faut le prendre, on va pas se faire des politesses. Après vous, non, je vous en prie, je n'en ferai rien, la révolution, c'est pas le bal des débutantes.
Vous passiez le micro entre vous, à ce qui paraît. Et quand une femme prenait la parole, on lui criait « Ah, poil !» Et si elle s'énervait, elle faisait traiter d'hystérique ou de mal baisée.
Le prof se marre...
N'importe quoi, faut pas croire tout ce qu'on dit.
Il se défend mollement pour la forme. Nous, on fait du bruit, mais en vrai, on n'en sait rien.
Il pense qu'on va lâcher l'affaire, mais Fred est lancé.
C'est vrai ça, on n'en parle jamais des femmes de 68. Enfin, lui, notre prof d'histoire, il nous en a pas parlé.
Alors, on lui a demandé de nous raconter ça.
Tu nous en parles jamais des femmes en 68. Elles y étaient ou pas dans cette histoire-là ?
Il a pas l'habitude de se défiler, alors il répond que...
Bon, dans la bande, comme vous voyez, on était que des mecs. Mais sinon, bien sûr qu'elles y étaient les femmes en 68. Dans les manifs, dans les amphis. Il y avait autant de femmes que d'hommes, peut-être plus, même si c'est vrai qu'on les entendait pas beaucoup en AG. Mais on était tous pour l'égalité. Et puis, mai 68, c'était la libération de la sexualité. Et ça, il faut pas l'oublier.
Oui, la victoire est au bout du phallus, c'est ça ?
C'est Fred qui monte au créneau. Elle s'y connaît, sa mère, elle y était, et elle lui a raconté.
Bon, ça c'était un slogan, mais tout le monde en a profité. Et vous aussi maintenant, vous en profitez, non ? Ça vous paraît normal parce que vous savez pas ce que c'était avant. Mais vous en profitez. Tout le monde en profite. Et puis, elles trouvaient leur place. Elles s'occupaient de l'infrastructure. C'est important, l'infrastructure.
Oui, elles faisaient le café, elles tapaient les tracts, elles peignaient les banderoles.
Et là, le prof, il a dit...
C'est sûr qu'on avait d'autres priorités que s'occuper de la place des femmes. On faisait la révolution, tu vois. Alors la place des femmes... Et puis, n'oubliez pas que le MLF, c'est grâce à mai 68.
Moi, je dirais plutôt à cause... Elles ont quand même été obligées de faire des assemblées générales non mixtes pour pouvoir prendre la parole, mais à part ça, vous étiez pour l'égalité.
Extinction de voix.
Rester sans voix.
Modification. Autocensure, autocritique.
Être sans voix.
Muet.
Contrôle.
Moi, j'ai choisi de parler de la soirée du 28 février 2020. C'est une soirée... Je me rappelle parce que j'étais avec mes parents en vacances au ski. Et le soir, il y avait donc la cérémonie des Césars qui était attendue. Et c'était une cérémonie qui se passait sous une grosse tension. Et pour cause, la nomination de Roman Polanski à la meilleure réalisation, réalisateur pourtant accusé de plusieurs viols depuis des années. Et une voix en particulier s'est élevée ce soir-là, celle d'Adèle Haenel. Une voix qui a pris le dessus sur les quelques applaudissements suite à la nomination de Polanski. Et à travers cette phrase, c'est une honte, la honte. Le mot honte est devenu symbole de révolte face à une injustice.
Attends, parle moins fort, il nous écoute.
Honte, oppressé.
Contrôle.
Tu sais pas que le mec en face, il est...
Les voix chères qui se sont tues.
Avril 1978, un week-end à la campagne, de Catherine Benhamou. Quand elle en parle à Fred, elle dit qu'elle n'a pas vu la tête du type, seulement son regard dans l'ombre. Elle dit qu'elle a honte, qu'elle comprend pas pourquoi elle n'a pas dit non tout de suite. Et Fred qui n'arrête pas de poser des questions.
C'est pas comme si tu t'étais retrouvée toute seule dans un parking avec un couteau sous la gorge, on était là et t'as rien dit.
Je lui ai peut-être envoyé des signes sans le vouloir, on avait beaucoup bu, j'aurais perdu le contrôle, des signes qu'il aurait pris pour une invitation, ça s'appelle un malentendu, peut-être qu'il s'est cru invité.
Mais Fred continue avec ses questions.
Est-ce qu'on met la main sur la bouche de quelqu'un qu'on a invité? Et même si tu l'avais invité, tu peux changer d'avis, c'est ton droit, non? Et puis, le corps aussi a un langage. Ton corps est resté inerte, c'est clair, ça veut dire non. Le corps peut dire non quand la bouche est muette.
Le corps peut dire non quand la bouche est muette.
Le corps peut dire non quand la bouche est muette.
Est-ce que ta voix a trahi tes sentiments?
Trahison.
N'avoir plus de voix.
Autrefois, je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir, une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu tout bas la voix du silence? Je m'en suis allée promener. Les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement me parlaient. J'entendais chanter la voix du silence.
J'ai décidé de parler du harcèlement de rue. Je pense que c'est un sujet qui nous touche toutes ici. Donc bah, ça me parle parce que, bah, évidemment, déjà, je suis une femme et je pense que ça dit déjà pas mal de choses. Du coup, on a choisi du coup, à partir de post-it. Et sur le post-it, il y a marqué « ta gueule » en gros et avec un point d'exclamation. Et je pense que c'est ça qui m'a fait le choisir aussi parce que ça montre vraiment la haine et l'envie de révolte qu'il peut y avoir en fait, derrière les harceleurs. En fait,
T'es charmante, mademoiselle. Eh, t'es jolie, c'est à qui ce sourire, là? Eh.
C'est vrai que du coup, en tant que femme, on est beaucoup touchée par ça parce que c'est régulièrement qu'on va avoir surtout des regards des fois hyper lourds, des, juste aussi des harcèlements verbal, donc des sifflements, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui vraiment peut peser. L'impression aussi de ne pas pouvoir sortir quand on est toute seule, ça c'est quelque chose qui vraiment me met la haine parce que vraiment à chaque fois que je me rappelle que je suis une femme et du coup... sortir à 23h le soir alors qu'il fait nuit, ça fait peur et ça m'énerve en fait de pas pouvoir le faire. Parce qu'en fait j'avais une impression un peu avant quand j'étais plus jeune que ça existait pas vraiment. J'avais déjà conscience que en tant que femme on était un petit peu, c'était complètement inégalitaire en fait par rapport aux hommes. Je trouvais ça tellement fou en fait que des gens nous respectent pas, ça me paraissait impossible. En fait je vivais un peu dans le monde des bisounours je crois. J'ai vite pris conscience que si finalement. La première fois vraiment qu'il y a un truc qui m'est arrivé, en fait, c'était un truc tout bête. J'étais en train de me promener pour aller au bus, pour aller au lycée, et même au collège, je sais plus quand c'était. Et c'est un homme qui s'est arrêté en voiture à côté de moi, qui m'a crié un truc. Et le truc, c'est que vraiment le lendemain, il m'est arrivé pratiquement la même chose, mais cette fois-ci avec des gens plus jeunes qui sont passés en scooter à côté de moi, qui ont fait exprès de repasser pour me regarder. Et là, vraiment, j'ai pris conscience du truc et j'étais genre, ah oui, waouh, ok. C'est ça, en fait, la vie d'une femme. Waouh. Ça donne pas trop envie. Enfin, je suis quelqu'un qui va pas forcément trop prendre la parole, qui va pas oser dire les choses. Et du coup, j'ai tendance à pas dire quand ça va pas ou. Quand ça m'est arrivé, j'ai pas eu de réflexe, en tout cas, de répondre ou quoi que ce soit. Le ta gueule, en fait, c'est un peu le truc que j'ai vraiment, en fait, j'ai envie de sortir et c'est un peu. Ça se voit que ça vient du cœur et que c'est une forme de libération, en fait.
T'es occupée là? Tu fais quoi?
Mademoiselle, ça va?
Allez, fais pas ta pute!
Attends, écoute. Ah, voilà, c'est mieux.
C'est bon, t'as fini de parler?
Ferme-la, ta gueule.
Chut! On t'a pas demandé de parler, toi?
Mais tais-toi! Mais ferme ta putain de gueule!
Mais ferme ta putain de gueule!
Personne ne me baisse des fous. C'est moi qui t'allume en vrai. Qui te fait du sale, baby? Tout le temps veut chouchou avec moi, c'est pas easy. Ta daronne me kiffe, elle sait que c'est moi qui t'écarte du daddy. Depuis, dans le bac, ça twerk, ça twerk, ça twerk, sans cesse, billet sous ses lots, dans le.
Août 2024, c'était il y a 6 mois, soit 180 jours. Août 2024 a vu et entendu sa première scène rap. Elle a écrit scène avec des guillemets. Pourquoi? C'est comme si elle réduisait la place qu'elle avait prise, l'espace où elle avait posé et projeté sa voix. Je ne sais pas exactement comment s'est passé ce moment, ni comment elle a vécu, mais j'imagine qu'il est resté comme un beau souvenir puisque tu l'as noté sur ce post-it et que tu l'as affiché au tableau. C'est pour ça que j'ai choisi. J'aurais bien aimé que tu nous en parles. Étais-tu stressée, angoissée, excitée? Ressentais-tu un joyeux brouhaha d'émotions, un mix de hâte, d'appréhension? Est-ce que ta voix a trahi tes sentiments? Et quel texte avais-tu choisi? C'est pour ça que j'ai choisi ton post-it, pour que tu nous racontes ta première scène, sans guillemets.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, j'en promenais. J'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Cœur.
Tête, poitrine, ventre.
Autotune.
Chant.
Mélodie.
Une fille est au collège et la professeure de musique appelle les élèves par ordre alphabétique. La fille a un nom en B. Alors elle doit se lever. Elle est debout devant la classe et la professeure de musique donne au piano la tonalité de Hiro de la Luna. C'est très aigu. La voix de la fille ne sort pas, ne veut pas sortir. Elle reste bloquée, elle bloque. La fille se met à pleurer. Je connais cette fille. J'ai l'impression de la connaître. De reconnaître ce moment où, enfant, on te fout devant tout le monde pour faire quelque chose, une chose bien particulière avec ta voix, mais une chose qu'on t'a jamais appris à faire. Quand on est une fille, quand on est au collège, il y a un risque, il y a un danger à sortir sa voix.
Faites le chewing-gum.
Il y a peur, il y a tension, il y a point culminant, patinage, et là, on se retrouve dépassé devant tout le monde par des larmes qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas qu'elles existent, qu'on ne veut plus jamais parler, chanter, dire quelque chose devant ces gens qui gloussent au fond de la classe, qu'on veut disparaître, qu'on ne veut plus être, qu'on veut être une autre et devenir l'autre fille, devenir plus grande, une star qui parlerait bien, qui chanterait à la télé et dont tout le monde dirait « elle a une belle voix hein. ».
Humain oiseau. Pendant tes fièvres délirantes, un chant va remonter en toi, comme un souvenir trop longtemps oublié. Ce sera ton chant. Il faut qu'une personne le retranscrive, sinon il sera perdu. Ce chant est précieux, tu pourras ensuite l'arranger ou le garder dans sa forme brute, et tu pourras le chanter à tes amantes.
Moi, je vais parler de mes premiers cours de théâtre en 2019. C'était un moment très important dans ma vie où j'étais plus avec une association à la fac. Et j'avais envie de faire une autre activité où je me sens vraiment, je sais pas, légitime, où je peux m'exprimer. Et le théâtre m'a permis de me sentir libre. Du coup, j'ai appris pendant ces cours à ne plus être timide, même si je peux l'être parfois quand je me sens pas à l'aise avec des gens. Et j'ai découvert une autre facette de moi-même. Je sais pas, ça m'a donné quelque chose de vraiment, vas-y, tu peux faire des choses, en fait, tu peux être féministe, tu peux t'engager dans des trucs, tu peux aller en France, tu peux être indépendant, tu peux être autonome, et je suis fière.
J'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille.
Pour vaincre,
j'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille.
Affirmation.
Passion. Singularité.
Confiance.
Le ventre vide.
En 1998, c'est l'apparition sur le petit écran de la série Charmed. Donc Charmed, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de trois sœurs. Trois sorcières, des femmes, héroïnes, qui utilisent leur voix pour lancer des sorts. Elles sont invincibles quand elles sont réunies et elles utilisent ce qu'elles appellent le pouvoir des trois. Moi aussi, j'ai grandi avec cette série et j'ai deux sœurs. Donc, je me projetais totalement dans la peau de ces femmes super puissantes. D'ailleurs, moi, mon personnage, c'était Phoebe. Et c'est aussi, ça m'a marquée parce que ça parle de sororité, mais ça parle aussi de transmission intergénérationnelle, parce que dans l'histoire, le pouvoir, il se transmet de femme en femme. Et on voit de temps en temps des apparitions de la mère ou de la grand-mère qui sont un peu ressuscitées par les sorts des trois sœurs quand elles ont besoin de leurs conseils. Et c'était également des grandes sorcières. La transmission par la voix, par la parole, me touche parce que j'aime le lien qui parcourt les femmes d'une même famille. Et il me rappelle l'amour particulier que je porte pour mes grands-mères, ma mère et mes sœurs. Elles, au pluriel, me montrent la bonne voie.
Que fais-tu avec le livre des ombres ?
Je me suis dit qu'on devrait y coucher toute notre histoire. Les épreuves qu'on a traversées et tout ce qu'on veut transmettre aux générations futures pour leur passer le flambeau comme on nous l'a passé à toutes les trois. À toi l'honneur.
Tu veux boire quoi, toi? Tu bois quoi, toi?
C'est vraiment une musique de mère.
Identité.
Retrouver sa voix.
J'ai retrouvé ma voix.
Ah ouais, bah
allez, j'entends ma même voix.
De quoi?
On s'entend pas parler.
Sans voix.
Qu'est-ce que tu dis?
Liberté d'expression. D'une même voix.
Mais non, je veux pas voir.
La même voix. La déesse sans voix.
La voix de ma mère. Elle m'a offert, comme petit héritage, quelques traits de son visage, empruntés à sa mère. Et, comme un panorama des douceurs du monde, son timbre me raconte que sa voix fait partie de moi.
Émotion. Noir. Moi, je dis noir. Gertie Dambouri.
Non mais les filles, là, je suis tellement heureuse. On a hurlé dans les rues de Paris, de D'Enfer Rochereau jusqu'à la Tour Eiffel. Il paraît qu'on était 50 000 femmes.
Je me sens belle parmi elles. C'est bizarre. C'est presque ce que je préfère. Passer des heures à la droguerie de la rue du jour à choisir des perles transparentes, dorées, rondes, oblongues, argentées. Et crier « Cléopâtre n'était pas blanche, les filles !» Non, mais c'est Liz Taylor qui joue le rôle de Cléopâtre. Un jour, on va se réapproprier tout ça. La reine de Saba, les pharaons d'Égypte.
Pas nombreuses, mais on a de la voix. Puissante.
Mais trop puissante.
Trop vivante, on est.
Ah
I'm
Salut les bécasses.